philosophie de la matière par le père Marie-Dominique Philippe Arimon, le 13 octobre 1989, deuxième cours.
Au plan philosophique, cette materia prima explique ce poids fondamentale de désagrégation dans le monde physique. Il y a une pente, voyez, vers le non-être, vers la destruction qui est fondamentale dans le monde physique. Si ce n'est pas tout le temps renouvelé, se désagrège tout le temps. Ça, c'est ce poids fondamental que les savants reconnaissent, le monde matériel, la matière comme telle, à la différence du vivant, qui a autre chose comme mouvement foncier. Vous voyez, la matière, comprenez bien, c'est source de désespérance, de dégradation, et la vie, source d'élan, de remontée, tout le temps. Et ces deux mouvements, nous les portons à nous.
Dans cette dégradation, dans le monde physique, on ne peut pas aller plus loin que la matière prima.
Non.
Donc c'est pas. On peut pas...
Ah, ben, c'est pas l'annihilation.
Oui, c'est pas l'annihilation.
La dégradation, c'est pas l'annihilation. Oui. Et bien alors, il y a le contrepoids de l'âme. C'est dans ce sens-là qu'on a inventé l'âme du monde. Oui. Parce qu'il fallait quand même que ça puisse exister. Et chez Aristote, c'est très discuté au point de vue historique. Mais il semble bien qu'au début, Aristote est un peu cru à l'âme du monde. Et à la fin de sa vie, au contraire, il a complètement purifié cette question de l'âme du monde. Père Vestugère étudie très longuement cette question-là de l'âme du monde. C'est une question intéressante, du reste, pour point de vue philosophique. Platon croit en l'âme du monde. Le monde a une âme. Et à cause de ce poids de la matière, il faut un contrepoids. Bon, alors nous avons posé, et ça je crois que c'est important, pour nous, cette recherche de la philosophie de la matière, c'est pour ça que j'aime mieux, il faut voir, je mets un point d'interrogation, faut-il mieux dire cosmologie comme les anciens, philosophie de la nature comme Aristote, ou philosophie de la matière. J'aime presque mieux philosophie de la matière, pour bien montrer qu'on étudie quelque chose de fondamental dans la philosophie de la nature. La nature est tellement mal comprise qu'il faut presque mieux dire ça. Je sais bien que matière aussi, c'est très équivoque. Mais on précise tout de suite que la matière, c'est ce qui, en nous, nous donne une capacité de transformation. Ce qui, en nous, nous oriente vers la désagrégation, vers la corruption, vers la mort. Il n'y a pas que ça en nous, il y a l'âme. L'âme de ce petit monde qui est nous. Alors, on a posé la question, je ne reviens pas dessus, une fois qu'on a distingué nature-forme et nature-matière, qu'on a distingué l'aspect fondamental de la nature-matière par la materia prima, on se pose tout de suite la question, quels sont les premiers éléments ? Alors on avait beaucoup disputé cette question, beaucoup moins critiqué cette question-là. Je l'avais fait du reste à Fribourg, avec un chimiste, ce qui est nécessaire. Est-ce que nous pouvons garder les éléments d'Aristote ? Est-ce que vraiment les éléments d'Aristote ont encore un sens philosophique aujourd'hui ? Ça n'a plus de sens au niveau chimique. Ça c'est bien. bien évident. Alors, beaucoup gardent les premiers éléments, mais vous connaissez les premiers éléments quand même, il faut les savoir. Hein. Les quatre éléments. Le premier philosophe qui en parle, c'est Empédocle. Et il parle des racines, c'est assez joli. Les racines du monde physique. Donc il faut comprendre ces quatre éléments. Il faut revenir toujours à ces quatre éléments. Donc la terre, qui est le plus proche de la matière. Distinguons bien matière, qui est un principe, une cause, et terre, qui est la première réalisation, l'élément. L'élément est déjà un pos, c'est pas un tiesti, c'est un comment. Comment la matière se trouve réalisée en premier lieu? Elle se trouve réalisée en terre. Et si vous aimez mieux, vous pouvez mettre la pierre. Parce que la pierre... du feu visible au feu invisible. C'est très très joli. Mais c'est l'élément le plus proche de quelque chose d'invisible. Oui. Un peu mythique. Alors, il est évident que les psychologues, les psychanalystes, les poètes aiment beaucoup les quatre éléments. Symbolise les quatre éléments. Le symbole de l'eau, le symbole de la terre, le symbole du feu, le symbole de l'air. Ça, c'est très bien reconnu. Ça, vous avez le droit en Sorbonne de faire un travail sur le symbolisme des éléments. C'est intéressant. Mais on peut aller plus loin. Et le philosophe doit aller plus loin. Est-ce que ce symbolisme repose sur une réalité? Ou est-ce que c'est simplement mythique? Symbolisme que vous façonnez comme ça. Vous pouvez faire un poème à l'eau. Sur l'eau. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le feu? Alors le philosophe creuse pour voir que les éléments, c'est la première réalisation de la nature. Matière et de la nature forme. Pardon. C'est la première réalisation. La nature se donne en premier lieu. En premier lieu, dans la terre, dans l'eau, dans l'air et dans le feu. Et ces quatre éléments sont simultané. Un ne peut pas exister sans l'autre. C'est la structure fondamentale de notre monde physique, au plan philosophique. Alors, je vous dis, on a bataillé toute l'année là-dessus, pour savoir si les éléments chimiques renversaient ça. Alors on voit très bien que c'est là où on saisit bien la différence d'approche du monde physique. Le philosophe détermine les quatre éléments à partir des sensibles propres. Et le chimiste détermine les éléments à partir des sensibles communs. Alors, à ce point de vue-là, c'est très intéressant. Et c'est très important. Vous voyez ? De voir que c'est vraiment les premiers éléments d'un monde que nous atteignons par les sensibles propres. Alors, toute la grande question à partir de là, c'est savoir le cinquième élément, la quintessence. Est-ce que le cinquième élément, nous devons l'admettre ou pas? ne pouvons plus admettre comme Aristote. Pour Aristote, le cinquième élément, c'était les éléments des astres. Et donc il y avait une matière nouvelle qui s'exprimait par la quintessence. La quintessence, vous voyez bien pourquoi. Cinquième élément. Il y avait une matière spéciale, et cette matière spéciale, c'était une matière incorruptible. C'est pour ça que pour Aristote, les astres sont incorruptibles. On ne peut plus dire ça. On sait que les astres sont corruptibles. Donc c'est la même matière prima. Oui, on a étendu le cumulonimbus physique. Avant, le cumulonimbus physique était uniquement le monde sublunaire, le monde de la corruption. Tandis qu'aujourd'hui, le monde corruptible, c'est tout l'univers. Tout l'univers est corruptible. Il y a des étoiles qui meurent, si on peut dire encore qu'elles meurent, qui s'éteignent, qui se rétrécissent, qui n'ont plus le même rôle à jouer, qui ne sont plus lumineuses. C'est tout ça qu'on devrait dire, elles sont plus lumineuses. Alors, il faut comprendre que la quintessence, peut-être, serait le magnétisme. Il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est que le magnétisme ? Est-ce que c'est quelque chose qui est mythique, quelque chose qui est une réalité qu'on n'ose pas trop regarder? Est-ce que c'est démoniaque? Ou est-ce que c'est réel? Et sur quoi ça se fonde? Alors, au Moyen-Âge, saint Thomas parlait des insensatés. On saisit par un sens particulier qu'on appelle l'estimative et la cogitative. C'est la cogitative pour l'homme. L'estimative, c'est pour l'animal. On saisit ce qui convient à l'homme et ce qui ne convient pas à l'homme. Et le magnétisme saisit bien ce qui convient à l'homme. Vous portez en vous, sans le savoir, un organe qui est malade. Le magnétiseur saisit ça tout de suite. Il vous voit, oh, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un équilibre foncé qui ne va pas. On le sait, hein. Quand ces magnétiseurs viennent ici, ils disent, oh, il y a des courants magnétiques ici, d'une force et d'une violence étonnante. C'est pour ça que Rimon, c'est le mont riant pour ceux qui survivent. Il y a des courants magnétiques extraordinairement forts. Quand on survit à ça, c'est merveilleux. On survivra à tous les autres climats. Il y a un microclimat ici, très très particulier. Ce qui explique ces cyclones très particuliers, uniquement autour de la maison. Ça va très loin. Il y a une pointe là. Et un magnétiseur saisit exactement le courant. Il voit que l'église est dans l'axe. Curieux. Alors, par le fait même, les lits doivent être mis dans telle disposition. Pour ceux qui ne dorment pas. Parce qu'ils n'ont pas bien mis leur lit. Ils l'ont mis anti-courant magnétique. Alors qu'ils essaient de trouver une position dans laquelle ils pourront dormir. Ils mettent ça très sérieusement. Et je crois qu'en effet, quelque chose comme ça. Je connais un autre qui était venu ici. Et quand il passait sur ses courants, mais exactement les mêmes. Ils ne se connaissent pas. Il était saisi dans tout son corps. Il tremblait presque. Si c'est courant. première année, je me souviens qu'on était ici, il y a eu un orage très fort. Et je devais sortir. J'ai eu absolument l'impression que la foudre était tout proche, comme en grande montagne, quand il y a un orage. On était à la hauteur de l'orage. C'était très curieux. C'était pas très drôle. Parce que on risque évidemment de la recevoir sur la tête. Et à ce moment-là, c'est vite fait. Mais oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ce magnétisme? Qu'est-ce que c'est que ces forces telluriennes, si puissantes, qui proviennent de courants d'eau, courants magnétiques, où on est lié à l'univers? Vous voyez, on ne les sent plus, nous, parce qu'on est beaucoup trop matheux. Non. On n'a plus assez cette cogitative. C'est estimative. Un animal sent tout de suite l'herbe qui est mauvaise pour lui. Nous devons réfléchir trois fois pour savoir si un champignon est bon ou mauvais. Si on avait une cogitative très poussée, on repousserait tout de suite. Il suffirait de passer. Et il y a des gens qui passent comme ça, qui immédiatement quand ils passent devant quelqu'un, oh, il est malade. Faut-il lui dire, faut-il pas lui dire? Alors voyez, est-ce que c'est la quintessence? Tomber du ciel sur la terre. Les anciens mettaient ça dans le ciel. Est-ce que c'est quelque chose qu'on saisit, je vous le dis, au Moyen-Âge? C'était quelque chose qu'on saisit par un sens cogitatif, la cogitative. Qui saisissait le convenience, ce qui convient et ce qui ne convient pas, ce qui est nuisible et ce qui n'est pas nuisible. Nous ne saisissons plus ça. Faisons confiance à la science. Alors on y revient aujourd'hui, ça qui est très curieux. On y revient, notre monde revient très fort au magnétisme. Alors il y en a qui disent c'est le démon. Parce que c'est incontrôlable. Vous voyez, c'est très curieux comme sentiment. Le contrôlable, c'est la science. Ils disent, faites confiance à quelqu'un qui a du magnétisme. Et ils détectent tout le temps, ah, vous avez un magnétisme énorme. Alors c'est vrai, c'est très difficile à contrôler. Quand on est habitué aux certitudes de la science, on dit, mais c'est imaginatif. On s'aperçoit que c'est pas imaginatif. Quelqu'un qui a été opéré, qui a eu telle ou telle maladie, va chez tel magnétiseur, qui tout de suite lui dit, vous avez été opéré là, là, là. Là, il y a un contrôle. Donc, il a quand même un don de saisir quelque chose que les autres ne saisissent pas. Bon, quand je passe à côté de quelqu'un, je ne sens pas qu'il a eu telle ou telle opération. Lui, il sent. S'il le veut, hein. S'il ne veut pas, il passe. Ce serait terrible, ça agissait tout le temps. S'il le veut, c'est-à-dire l'aptitude, vous pouvez ouvrir vos yeux quand vous voulez. Vous pouvez ouvrir cette cogitative quand vous voulez, par rapport à quelqu'un d'autre. Alors, voyez, là, il y a un très gros problème que le philosophe doit regarder. Je suis persuadé que la science physique, que la science astronomique ne touche pas réellement, pleinement, les réalités physiques. Donc, il se peut très bien que l'homme ait un pouvoir de saisir quelque chose du rayonnement des pierres précieuses. C'est très possible. Aucune espèce d'inconvénient à ça. Au contraire, ça montrerait la limite de la science qu'on voit aujourd'hui. Vous voyez, quand vous soignez quelqu'un, vous soignez d'une manière purement scientifique, vous le soignez pour tel mal, vous vous trompez, vous le tuez. arrive. En Suède, il y a l'honnêteté de mettre le pavillon des victimes de la médecine. Ça existe. Il y a un pavillon particulier dans les hôpitaux, les victimes de la médecine. C'est honnête. On vous a soigné pour telle chose, vous avez aperçu trop tard. Oui, parce qu'on n'a plus ce contact suffisant avec la réalité sensible. On est trop abstrait. Il y a des tas de choses qu'on ne sait plus. Alors, le magnétisme te remet dans ce réalisme-là, parce que vous ne pouvez pas le mesurer. C'est pour ça que c'est incontrôlable. Mais est-ce que la mesure est la seule chose contrôlable? Alors, ça, c'est une question critique de connaissance. Je dirais non. On peut contrôler certaines choses en droit de la mesure. Mais il faudrait justement essayer d'étudier ça de très près. Et c'est possible, vous voyez, que là nous touchons à quelque chose qui est un domaine particulier que les anciens avaient saisi en parlant ça de la quintessence. Et projetant cette connaissance à cause de leur sens philosophique dans un corps particulier. Parce qu'on subit le rayonnement du soleil, on le sait bien. Donc on subit le rayonnement de la lune. Si on subit ça, ça prouve que la quintessence pénètre notre monde, nous. Il est évident que si vous exposez au soleil à certains moments, vous risquez d'attraper mal la tête. Pourquoi? Parce qu'il agit sur vous. Alors dire, oh, il chauffe, il y a autre chose. La quintessence. Oui. Je laisse le problème ouvert. Ce serait une question disputée. Très intéressante. Ce serait difficile le reste. Il faudrait des magnétiseurs. Leur demander d'être là, d'exposer ce que lui, eux, ressentent. Qu'ils disent, et puis l'étudier objectivement, l'analyser, et voir si on peut l'expliquer ou pas. On avait regardé donc ce problème de la quintessence. Puis après, nous avions étudié le mouvement et la diversité des mouvements. Sur Aristote, ne portez pas sur Aristote, mais sur les dernières conclusions d'une scolastique décadente. Il faut relire de temps en temps la critique de Bergson sur Aristote à propos du mouvement. C'est important, c'est intéressant. Alors maintenant, je voudrais voir avec vous la question du lieu. Et du temps. Et c'est toujours pour comprendre qu'est-ce que nous pouvons regarder de la physique d'Aristote. Alors qu'est-ce que c'est que le lieu? Voyez, alors ayez sous-jacent dans votre tête quelque chose de bien connu. C'est le point de vue de l'espace et du temps. Catégorie de l'espace et du temps. Aristote parle du lieu. Quelle différence entre espace et lieu? Aristote parle du temps, mais pas comme une catégorie a priori, comme une réalité. Bon, nous verrons le temps. Maintenant, je regarde le lieu. Très curieux. Alors, simplement, là, un petit topic de recherche. Si je regarde le point de vue religieux, j'ai le droit, tradition religieuse, je vois qu'il y a des lieux sacrés. Y a-t-il des espaces sacrés? cœur de David qu'il fallait construire un temple. Que lui était dans un palais. C'était pas bien que Dieu reste comme ça. La liturgie du temple, et la liturgie du temple, le lieu, c'est lié au lieu. Faut-il adorer à Jérusalem ou dans les hauts lieux? C'est très très curieux, mais c'est intéressant, vous voyez, parce que de voir que les traditions religieuses parlent de lieux sacrés. Jamais d'espace sacré. Vous voyez, Kant parlait d'espace sacré. Non. Il y a le lieu au niveau tout à fait familial, la maison. C'est un lieu, c'est le lieu de la famille. On a besoin de ça. On a besoin d'avoir sa maison. À partir d'un certain âge, il faut avoir sa maison. C'est mon pauvre Saint Thomas. Je crois qu'il vaut mieux le laisser là comme ça. J'aime mieux comme ça, je le vois. Parce que là, vous le voyez pas de toute façon. Alors, sa maison, la maison. On construit sa maison. C'est un lieu. Vous dites pas, vous dites, c'est un espace. C'est évident, l'architecture, quel espace cette maison? Et vous, vous dites le lieu. Un espace dans lequel, un lieu où vous habitez. C'est le lieu où vous habitez. Vous voyez, c'est rester dans le langage courant, la question du lieu. Ça qui est important. Et Heidegger reprend le point de vue du lieu et de la maison. La maison de l'être. Ça, c'est la maison de l'être. C'est la maison blanche. C'est la maison de l'être. C'est là. C'est très curieux, ces choses-là. Le temple, la maison, c'est le lieu. Ponctuer le lieu. Alors, je vais regarder avec vous ce qu'Aristote dit sur le lieu. Puis, nous nous demanderons qu'est-ce que nous pouvons, nous, garder de cette philosophie du lieu. Dans Aristote, Physique, livre premier, non, pardon, livre quatrième, 208A, 208A, 27, voilà le point de départ, quand il en vient à l'étude du lieu. Selon le lieu, dans notre terminologie, le transport. Donc, voyez la question que se pose Aristote. Est-ce que le lieu existe? Alors, selon le langage courant, vous indiquez sur la carte, ah, il est arrivant. Le postier, c'est ce que c'est qu'un lieu. Il est arrivant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Point de vue physique, point de vue géographie humaine, je comprends très bien. Tant qu'on n'a pas fait une carte, on ne connaît pas très bien. Tant qu'une carte, on montre le lieu, montagne, la philosophie de Rimond. Philosophie de... Mais la question de savoir ce que peut bien être le lieu est pleine de difficultés. Pour qu'Aristote dit ça, c'est plein de difficultés. En effet, il n'apparaît pas unique à qui l'examine selon toutes ses propriétés. Donc, le lieu apparaît quelque chose de complexe. En outre, les autres auteurs ne nous ont rien laissé, aucun exposé de difficulté, ni aucune solution à ce sujet. Aristote porte le topic historique sur le lieu. Il est le premier. Est-ce que Platon a parlé du lieu? Il parle simplement que donc le lieu existe. Connaît clairement, semble-t-il, au remplacement, là où maintenant il y a de l'eau, là même, quand elle en part, comme dans l'As, voici de l'air qui s'y trouve. Et à tel moment, une autre espèce de corps occupe le même lieu. C'est le feu qui vous posez sur. La maison brûle, c'est le feu. C'est que, semble-t-il, il est une chose autre que celle qui survient et s'y remplace. Car là où il y a maintenant de l'eau, là il y avait tout à l'heure de l'eau. Là où il y a maintenant de l'air, il y avait tout à l'heure de l'eau. Par suite, il est clair que le lieu est quelque chose d'autre que les deux corps qui y entrent. Et en sorte, en se remplaçant. Et l'expérience très très simple. Nous occupons un lieu. Si nous partons, notre voisin qui a besoin de place, on sait ça dans le chemin de fer, n'est-ce pas ? On va voyager seul la nuit et on cherche le lieu où on est seul. Parce que l'homme est un animal social. Alors on cherche avant tout le lieu des sols. On est très heureux de trouver qu'on a toute la place. Et on dit toute la place, tout le lieu. Donc on ne peut pas nier qu'il y a quelque chose de notre expérience commune. Donc ça existe juste tel lieu. Quand vous recommandez louer votre place, tel lieu inscrit. On l'a noté, ça c'est artificiel. On a précisé. En outre, vous voyez, c'est intéressant qu'Aristote souligne le mouvement local. Ça, pour Aristote, c'est très très important. On verra si ça a le même intérêt pour nous. Le mouvement local, le déplacement. Le mouvement local va d'un lieu à l'autre. Donc s'il n'y a pas de lieu, il n'y a plus de mouvement local. Selon le sens commun, le sens ordinaire, vous parlez d'un mouvement local. Je vais à Paris. Paris n'est pas le même lieu qu'ici. Vous êtes tous d'accord. Il faut se déplacer pour aller d'ici à Paris. Un déplacement, un mouvement local. Tout ça est très vrai au niveau du sens commun, vous voyez, habituel. Mais dès que je veux préciser qu'est-ce que c'est, ça m'échappe. En outre, les transports des corps naturels simples, comme feu, terre et autres semblables, indiquent non seulement que le lieu est quelque chose, mais aussi qu'il a une certaine puissance. En effet, chacun est transporté vers son propre lieu. Le lieu du feu, c'est toujours plus haut. Le lieu de la terre, c'est toujours plus bas. Si rien en haut, l'autre en bas. Et ce sont la partie et opinion du lieu. Je veux dire le haut, le bas, les autres parties de l'air, les autres parties, les six dimensions. Or, ces déterminations, le haut, le bas, la droite, la gauche, ne sont pas telles seulement par rapport à nous. Pour nous, en effet, elles ne sont pas toujours constantes, mais dépendent de la position que prend la chose pour nous, selon notre orientation. Par suite, une chose peut, en restant sans modification, être à droite et être à gauche, être en haut et être en bas, en avant et en arrière. Dans la nature, au contraire, chaque détermination est définie absolument. Le haut n'est pas n'importe quoi, mais le lieu où le feu et le léger sont transportés. Vous définissez le lieu par le feu, du moins le haut. De même, le bas n'est pas n'importe quoi, mais le lieu où les choses pesantes et terreuses sont transportées. De telles déterminations diffèrent non seulement par leur position, mais par leur puissance. Les choses mathématiques le montrent également. Elles ne sont pas dans le lieu, et cependant, suivant leur position relativement à nous, elles sont à droite et à gauche. Mais les parties, mais leur partie, est seulement objet de pensée. Et elles n'ont par nature aucune de ces déterminations. Vous voyez, toujours le souci de voir est-ce que ça existe. Je ne peux chercher la nature que de ce qui existe. Alors comment ça existe? C'est quelque chose de très très particulier. Alors, je passe tout l'aspect dialectique dans lequel Aristote se met à critiquer une position du lieu, quoi que ce soit très intéressant. Regardez tout de suite. Chapitre 4. Et avant le chapitre 4, il y a un petit passage qu'il faut voir. Voilà le chapitre 4. C'est la recherche sur ce qu'est le lieu. 210. Non, 210B. Vous savez comment ça signifie, hein, ça, les notations d'Aristote, c'est à partir de Bécquer. Il faut le dire au moins une fois dans sa vie. Et vous voyez, c'est mis toujours dans n'importe quelle traduction bien faite d'Aristote. Vous avez par exemple pour ici 210B32. Ça correspond à l'édition Bécquer. Berlin du siècle précédent, tout à fait à la fin du siècle précédent, une très bonne édition, l'édition à laquelle on se réfère tout le temps quand on cite Aristote. C'est pas suffisant de dire physique livre 4, non, dire physique livre 4 200, pas la peine de mettre des cœurs, tout le monde le sait. Alors comme ça vous avez tout de suite la référence. Du travail propre. Mais Bécquer, c'est une invitation, c'est la révérence qu'on a vis-à-vis d'Aristote. On cite selon Bécquer. Toutes les œuvres d'Aristote sont dans Bécquer. Quand vous citez Saint Thomas autrement, citez jamais Saint Thomas comme ça. Alors, on va essayer de comprendre. Et là, c'est très difficile, Aristote l'a prévenu. Pas comment du tout. Qu'est-ce que c'est? C'est dans un lieu. c'est assis à tel endroit. Et être assis, c'est situs. Parce que vous y êtes debout. Êtes-vous dans le même lieu quand vous êtes assis debout? Quand vous êtes à genoux? Et quand vous êtes assis? Est-ce que c'est le même lieu? Mais ça regarde l'homme, hein? Ça regarde aussi la vache. C'est évident. La vache est dans le pré. Ça regarde aussi les corps physiques, la montagne. Alors, qu'est-ce que c'est que le lieu? Ce que peut bien être le lieu, voici comment on le rendra sans doute manifeste. Phanéron. Allez, on le rendra. Inoito Phanéron, on va le rendre manifeste. Prenons à ce sujet ce qui semble être ses véritables propriétés essentielles. Ainsi, nous admettons que le lieu est l'enveloppe première de ce dont il est le lieu. C'est... Oui. C'est maintenant que le lieu est l'enveloppe première. Protéron, c'est l'enveloppe, ce qui enveloppe, périeikon. Donc, qu'est-ce qui vous enveloppe? C'est l'air qui vous enveloppe. Vous êtes dans un lieu. Mais le lieu ne se prend pas de la terre. L'enveloppe première de ce dont il est le lieu, qu'il n'est rien de la chose, que le lieu premier n'est ni plus grand ni plus petit que la chose, qu'il peut être abandonné de chaque chose, et qu'il en est séparable. Sinon, vous pouvez quitter ce lieu, et vous ne vous retournez pas pour voir ce qu'il devient. C'est très curieux. Si vous avez abandonné votre vêtement, vous vous retournez pour voir s'il est toujours là. Faites pas ça pour le lieu. Petite remarque, mais c'est comme ça, Aristote, c'est très simple. Mais hein. Alors après, on va creuser. Ajoutons qu'à tout lieu appartiennent le haut et le bas. Que les corps sont transportés par nature et reposent dans les lieux propres à chacun. Et cela, soit en haut, soit en bas. Il y a des corps qui reposent en bas, et des corps qui reposent en haut. Vous pouvez rêver d'être un oiseau et de vous reposer en haut d'une branche. Et le singe, il a beaucoup de lieux. De temps en temps, il se met à dormir dans un arbre. Quand on était gosse, on avait comme ça des soucis d'aller dormir dans un arbre. Là. La réminiscence du singe qui était en nous et qui devait dormir. Dormir dans l'oiseau, parce que, ou dans l'eau, dormir dans une baignoire. Mais si on est poisson, c'est le lieu de repos. Et dormir dans un lieu bien douillé, hein, c'est un gâteau, ça, du banquet. Alors, j'aime bien tout ce qui est moelleux. Moi, je ne dors que là. On n'est pas fait pour la vie religieuse, alors. Hein. Cela posé, il faut poursuivre l'examen. Et l'on doit tâcher de diriger une telle recherche de façon qu'elle permette d'obtenir le tiesti, ce que c'est. Alors on a traduit l'essence, j'aime pas du tout ça. C'est tout simplement pour savoir ce que c'est, le tiesti. Afin de résoudre nos difficultés, de transformer en propriété véritable du lieu, celle qu'on avait seulement admise comme telle. Et entre autres, à rendre manifeste la raison des embarras et endroits difficiles rencontrés dans ce sujet. Telle est la meilleure manière de tout expliquer. compris comme c'est tapis, là. C'est très, très joli comme dessin. On regarde d'une façon très enveloppante. Qu'est-ce que c'est que le lieu, dans le langage courant. On dit propriété. Pour nous mettre sur la voie de chercher qu'est-ce que c'est que le lieu. Et une fois qu'on aura saisi le logos du lieu, on trouvera ses vraies propriétés. C'est pas l'heure, c'est l'heure. Ah bon? Logos du lieu. Et une fois qu'on aura saisi le logos du lieu,